Bon.
Bonjour. Nous arrivons doucement à la fin du livre de Job. Il manque évidemment la page numéro 30, mais comme je l'ai photocopiée par ailleurs et n'est pas dans l'ordinateur, elle n'a pas de chiffres et elle vous a été donnée déjà. C'est celle qui montre les deux plans en parallèle des discours de Dieu. Excusez-moi, mais je travaille un peu en bricolant, alors pas toujours l'ordre parfait. Donc nous arrivons vers la fin du livre de Job. Et nous avons à nous demander d'abord ce que Dieu a dit à Job, reprendre un peu en résumé. Puis nous avons à nous interroger sur la réaction de Job lui-même. Et puis celle du lecteur, évidemment. Puisque nous lisons ce livre, et donc nous sommes entrés dans la réalité dont ce livre parlait. D'abord, les deux discours de Dieu à Job. Évidemment, ils sont énigmatiques, et nous ne voyons pas très bien comment il répond aux questions. Vous savez que Dieu ne répond jamais exactement à nos questions parce qu'il se trouve à un autre niveau, beaucoup plus profond. Alors il accueille notre question et sa réponse va beaucoup plus loin. Jésus fait pareil. Il ne répond pas exactement aux questions au niveau où on les pose. Pour nous montrer que notre question s'ouvre sur d'autres questions. Et que notre vie est elle-même une question, un questionnement. Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous sommes? Et la réponse à ces questions, ce n'est pas nous qui pouvons la donner. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut la donner en nous. Et le fait qu'il a répondu, Job nous le dit, « Maintenant mes yeux t'ont vu ». Mais qu'est-ce qu'il a vu? Impossible à dire ce qu'il a vu, parce que c'est lui qui a vu. Un autre est impossible de nous dire ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons vu que si nous avons fait attention à la manière dont les choses sont dites, le Seigneur, Dieu, hein, le tétragramme, Yahvé, Dieu parla à Job du sein de la tempête. Dieu parle toujours à partir de ce que nous vivons, de la tempête que nous vivons. Il parle à partir de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos interrogations. Il est cette présence de dans nos interrogations, dans notre angoisse. Et c'est ça que nous avons à voir chacune, chacun, pour soi-même. Parce que la réponse de Dieu, elle est toujours personnelle. Mais nous ne sommes pas toujours adaptés. Nos oreilles ne sont pas toujours à la disposition de ce qui nous est dit. Dieu parle à travers ce que nous sommes. Le Seigneur se présente à Moïse au buisson ardent, et quand Moïse demande à Dieu qui il est, il faut bien que je dise qui m'a envoyé, alors Dieu répond. Nous prenons ça souvent comme une définition. Ehie asher ehie, je suis en train de devenir ce que je suis. parce que c'est un inaccompli. C'est un, en fait d'abord une fin de nous recevoir. Je suis ce que je suis. Point. Et c'est en même temps, mais je deviens avec toi. Je suis ton devenir. Et ça, c'est difficile à percevoir pour nous. Que Dieu devient. Mais il est, d'une manière absolument objective. Mais il est toujours avec. Il n'est jamais seul. Dieu est communion. Et Dieu est alliance. Donc il est toujours avec, il est toujours dans notre devenir. Il est à la fois en nous et plus loin que nous. Et donc c'est déjà une première approximation de la présence de Dieu. Nous voudrions le voir avec nos yeux, maintenant mes yeux t'ont vu, et nous voudrions qu'il se pose comme une image décisive, définitive. Mais Dieu n'est pas là. Il est précisément ce mouvement qui nous précipite dans ce que nous ne savons pas. Parce qu'il est tellement plus grand. Et donc, l'auteur du livre de Job a voulu dire cela. Il a voulu dire que cette présence de Dieu dans la tempête de Job, au cœur de ses angoisses, de ses inquiétudes et de ses révoltes, il est cette présence même de Job. Et si Dieu peut dire « Je suis », je puis comme un écho dire aussi « Je suis ». Mais Dieu est « Je suis » tout simplement. Et moi, je suis en recevant. J'ai à recevoir ce que je suis. Et pour dire si, pour dire cela, avec des images, et donc de manière symbolique, c'est-à-dire de manière profonde, réelle, le symbole étant toujours la réalité la plus profonde, le mystère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin.
Ça marche.
Ah, c'est ça qui a glissé. Oui. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, oui. Pardon, excusez-moi. Je suis allé trop loin.
C'est bon. Ça.
Merci. Et donc, pour dire cela, il faut des images. Nous avons besoin d'images. Et donc, la première image, c'est Dieu qui promène Job dans son parc météorologique et qui lui fait découvrir que le monde, c'est quelque chose d'immense. Le jeu des galaxies, le jeu de cette astrophysique, comme nous l'appelons, nous dépasse. Mais il y a des lois et nous pouvons percevoir un certain nombre de ces lois. Il y a deux manières de les percevoir. Il y a cette manière poétique qui est dans le livre de Job. Il y a aussi la manière des astrophysiciens, des astrologues, etc. Des astronomes surtout, qui essaient de découvrir des lois du grand univers. Et ce qu'ils découvrent surtout, c'est une expansion. C'est-à-dire une croissance. Et une croissance qui nous dépasse parce qu'elle va toujours plus loin. Et si nous regardons notre monde intérieur, ce qui est aussi une merveille et qui a aussi ses lois, c'est la croissance d'un petit homme et même d'un petit animal. Et ça, c'est le jardin zoologique. Et Dieu promène Job dans sa météorologie et dans son jardin zoologique pour montrer que tout être vivant a déjà en lui une ouverture, une croissance, une présence qui le dépasse et en même temps qui le constitue. Et ça, c'est une merveille extraordinaire. Et donc, en lisant ces deux promenades de Job, nous pouvons découvrir la merveille que nous sommes. Un petit animal qui grandit, qui ne gouverne pas sa croissance, qui la reçoit jour après jour comme une grâce. Et toutes les molécules du lait de sa maman, il le transforme en molécules personnelles. Il se nourrit d'elle pour devenir lui. Et c'est ça qu'il nous fait découvrir. Il ne dit rien de l'homme. Il ne parle que de son animalité. Il ne dit même rien des animaux domestiqués. Il ne parle que des animaux sauvages. Intéressant. Regarde ton monde et découvre la merveille qu'il est. Qu'est-ce que tu dis devant ce monde ? C'est pas toi qui fais lever le soleil, tu ne contrôles rien dans la nature. Il a des soubresauts, mais ces soubresauts sont précisément le signe de croissance. Comme tes soubresauts à toi sont signes de croissance. La leçon, c'est Job qui doit la tirer. C'est lui qui doit voir de ses yeux, c'est-à-dire découvrir cette merveille qu'il est. Et alors, ça c'est le premier discours de Job, de Dieu à Job, et le deuxième discours, avec ces deux grosses bêtes étonnantes qui viennent d'Égypte, de la région du Nil, l'hippopotame et le crocodile, il dit voilà, le mal, tu ne peux pas le contrôler absolument. Il te dépasse. Il est là, il est présent. Il est présent parce qu'il fait partie du chef-d'œuvre de Dieu, parce que tu es dans un monde qui est limité, qui travaille, qui est en croissance, qui a des sautes d'humeur, comme toi tu en as. Mais le mal te dépasse. Tu ne peux pas le dominer. Tu dois faire effort, bien sûr. La chasse était l'apanage des rois. Ils devaient protéger le peuple contre ces grands animaux, contre le mal. C'est ce que fait, bien sûr, jusqu'à un certain point, ce que nous appelons le gouvernement. Qu'est-ce qu'on gouverne ? Difficile à dire. Le gouvernement. Mais tu n'as pas le contrôle de cette réalité qui te dépasse. Mais moi, Dieu le Créateur, je peux dominer ce mal. Mais je vais me mettre à ton service pour essayer de le dominer en toi. En toi. Je suis avec toi. Et il appelle Job à une collaboration contre ce mal. Job devient le collaborateur de Dieu pour lutter contre le mal, parce que Dieu est devenu le collaborateur de Job, présent dans son mal. Donc c'est une intériorisation de cette présence divine qui est donnée à Job. Et alors, comment répond-il ? Reprenons le texte. Réponse de Job. Et il répondit Job au Seigneur, et il dit : Je sais que tu peux tout. Je sais que tu sais, et donc je te fais confiance. Je sais que tu peux tout. Et que n'est rendu inaccessible pour toi aucun projet. Tu es celui qui projette. Qui est celui qui dissimule le dessein sans science, disais-tu. Et il rappelle les paroles de Dieu, qui est celui qui dissimule mon dessein sans science, qui parle sans savoir, blidat en hébreu, sans science profonde, sans savoir. C'est pourquoi j'ai annoncé et je ne disconviens pas, et je ne discernais pas des merveilles plus grandes que moi que je ne sais pas. Entends donc, disais-tu, et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu me feras savoir. C'est le Seigneur qui disait cela et que Job reprend. Il essaie de remâcher la question du Seigneur. Par audition, par oui dire, je t'avais entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai perçu ta présence en moi. C'est pourquoi, alors ici, la manière de traduire ce dernier verset est vraiment difficile. C'est pourquoi on pourrait traduire comme cela littéralement, je méprise quoi ? Ben, mon attitude, peut-être. Et je me reprends, ou je regrette. Sur ou à propos de poussière et cendre. Oh. Dans l'histoire du marchandage d'Abraham avec Dieu pour la destruction de Sodome et de Gomorre, Abraham s'adresse à Dieu et il dit « Mais je vais encore te poser une dernière question, car je ne suis que poussière et cendre. » Tiens, exactement. Il se trouve aussi, Job, en personnage d'Abraham. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ça peut être une attitude de deuil. Je vois que j'ai été trop loin, je mets ma main sur ma bouche. Je reviens à mon humilité, à ce que je suis tout simplement une créature. On peut traduire comme cela. Donc je me dédie. Est-ce que je me convertis, comme me le demandaient mes amis dans le premier cycle de débat ? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que c'est vraiment « je me convertis » à la théorie de la rétribution ? Ou bien « je me détache de la poussière et de la cendre » pour vivre de ta présence. C'est une autre manière de traduire le texte. Il n'est pas clair, heureusement qu'il ne l'est pas. Parce que il reste une possibilité à déterminer soi-même. C'est nous qui avons toujours à interpréter finalement ce qui est dit pour nous-mêmes. C'est la tâche du lecteur. Mais nous restons quand même sur une question. Est-ce que nous voyons dans notre vie ce que Job a vu ? Alors, il y a encore une suite. Parce que le texte, mine de rien, même si on a fait des ajouts successifs, c'est plus tout à fait possible. Mais le texte est quand même extrêmement bien construit. Et il arriva, après qu'il eut parlé, le Seigneur, ses paroles à Job, il dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit à Éliphaz le Thémani, mon nez a été ardent de colère, il arda mon nez de colère. Ça veut dire, je suis en colère contre toi. Contre toi et contre tes deux amis. Ah, parce que vous n'avez pas parlé de moi ou vous ne m'avez pas parlé, on peut encore traduire les deux. Vous n'avez pas parlé de moi correctement, donc on a, avec exactitude, comme l'a fait mon serviteur Job. Ah tiens, donc voici que Dieu donne finalement raison à Job et à tout ce qu'il a vécu avec ses amis, et eux n'ont pas bien parlé. Et maintenant, hein, le sens de « et maintenant » dans l'Ancien Testament est important, et maintenant ça veut dire « à toi de voir ». Et maintenant, prenez vous-même cet taurillon et cet bélier et marchez vers mon serviteur Job, et vous les ferez monter en holocauste en faveur de vous, et Job, mon serviteur, priera sur vous. » Ce qu'il faisait pour ses fils, parce qu'ils avaient pu peut-être commettre une incartade, hein, lorsqu'ils s'étaient réunis, eh bien c'est Job qui va intercéder pour vous. Lui, non seulement il a bien parlé de moi, ou il m'a bien parlé, nous savons qu'il est le seul qui a parlé à Dieu, mais il m'a bien parlé, Job. Eh bien, il a mieux parlé que vous, et il devient votre intercesseur. Intéressant cela. Oui, sa face, je la lèverai. Je vais relever sa face. Relever la face de quelqu'un, c'est le restaurer. C'est le rétablir dans son être profond. J'aurai égard pour lui, pour ne pas faire avec vous une folie. Parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Et voilà que mon serviteur Job revient alors qu'il était au début présent. Donc le serviteur est celui qui affronte Dieu et qui ose découvrir dans cet affrontement qu'il n'est qu'un homme. Comme Jacob au gué du Yabok, qui lutte contre un ange, Dieu lui-même. Et ils marchèrent, Eliphaz de Thémani et Bildad de le Chouchri, et Tsophar de Naamat, et ils firent selon que leur avait parlé le Seigneur, et il leva le Seigneur la face de Job. Il le rétablit. Le rétablit, bien sûr, dans sa dignité de partenaire, dans sa dignité amoureuse, peut-être. Et puis, il y a un épilogue. Et cet épilogue répond exactement au prologue, mais vous aurez remarqué que le Satan a disparu. Il n'intervient plus. Le Satan était au départ. Il était la forme d'un défi. Et ce défi s'est manifesté par la discussion avec les théologiens, par l'ouverture de Job à une dimension qui le dépassait, la sagesse, qu'il a reçue lui aussi comme homme, comme une étincelle, qui a été amené par Élihu vers l'adoration de la merveille du Seigneur, c'est-à-dire de sa création. Et maintenant, l'auteur a l'intention de nous qui sommes lecteurs, s'exprime dans ce sens. Et le Seigneur fit retourner le retour de Job, tandis qu'il priait en faveur de son ami. Il reçoit la grâce non pas parce qu'il a prié, mais en priant, il a opéré cette réhabilitation. Il a reçu d'être réhabilité dans sa réalité profonde. Et il ajouta, ou il poursuivit le Seigneur à tout ce qui était à Job, le redoublement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui donne le double de ce qu'il avait. C'est ainsi qu'on comprend généralement. Et souvent, quand on lit le livre de Job, cet épilogue apparaît comme un happy end. Pouah ! L'histoire recommence. On lui rend tout ce qu'il avait perdu, en double. Mais ça, c'est une manière très fondamentaliste de lire le livre. Le double, recevoir le double, c'est une manière de dire un double héritage. Le fils aîné recevait une double portion de son héritage pour la bonne raison que quand les parents étaient décédés, c'était le fils aîné à qui il incombait de protéger et de faire vivre toute la famille. Donc il avait un petit supplément de finances ou de biens. Donc, le double ne dit pas une quantité. Le double dit le redoublement de l'abondance de Dieu. Dieu est surabondant. Pourquoi ? D'où vient cette surabondance ? Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu as fait une expérience qui te dépassait. Tu as fait l'expérience d'une foi confiante. Et donc tu n'es plus seul. Tu as découvert que Dieu était en toi et vivait ta vie. Nous sommes dans l'Ancien Testament, hein, attention. Et c'est bien déjà de cela qu'il s'agissait. Nous aurons l'occasion la fois prochaine de parler de Jésus, qui vient en figure de Job. Et vinrent vers lui tous ses frères et toutes ses sœurs, parce qu'il y a pour manifester qu'on a reçu cette présence de Dieu, mais on devient fraternel. Et vinrent vers lui tous ses frères et toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois. Et ils mangèrent avec lui le pain dans sa maison. Et ils hochèrent la tête sur lui et le consolèrent sur tout le malheur qu'avait fait venir le Seigneur sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais que Job devient fraternel de tous ceux qui souffrent, comme ses frères et ses sœurs. Le monde devient fraternel quand on a partagé la désolation, l'angoisse, le malheur des frères et des sœurs. Et ils lui donnèrent chacun une pièce de monnaie et chacun un anneau. Une pièce de monnaie et un anneau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'anneau est signe d'alliance, précisément. Justement un signe concret de fraternité. Et la pièce de monnaie, c'est le partage des biens. S'il y a du malheur, il doit y avoir partage. Et le Seigneur bénit la situation dernière de Job plus que la première. De nouveau, il s'agit d'une surabondance divine. Et il lui arriva 14 000 ovins et 6 000 chameaux et 1 000 paires de bovins et 1 000 ânesses. Donc c'est le double de ce qu'il avait auparavant. Mais voyez, ces chiffres ne veulent rien dire sur le plan de la numération, le plan des mathématiques. Il s'agit d'une surabondance. Et il lui arriva, aïe aïe, 7 fils et 3 filles, mais il faut du temps, hein, pour faire de nouveau, surtout qu'il en a déjà eu. Il y a une incohérence là, évidemment. Hein, 7 fils et 3 filles. Encore, ben il en avait 7 fils et 3 filles autrefois. Et ça lui arrive aussi. Est-ce qu'il doit attendre 9, 10, 11, 12 ans pour ça? Mais non, vous voyez bien, la cohérence même, si nous prenons sur le plan de la littéralité, ne marche pas. Il lui arriva 7 fils et 3 filles. Et il appela le nom de l'une, Yemima, c'est-à-dire Colombine, et le nom de la seconde, Quetzia, c'est-à-dire Cannelle, et le nom de la troisième, Keren Hapour, c'est-à-dire Corne à phare. Bizarre. Pourquoi il dit tout cela? D'abord, généralement, les filles n'héritent pas comme les garçons, hein, dans le système patriarcal où vivaient encore les juifs à cette époque, 5e siècle. Mais Colombine, la colombe, qui est l'oiseau de l'amour, de la présence de Dieu, Quetzia, qui est cannelle, c'est du goût. C'est le goût, c'est la saveur. Et la troisième corne à phare, c'est-à-dire c'est le phare que l'on met autour des yeux. Il s'agit bien de ces sens, des sens qui sont repris dans la beauté. Et encore aujourd'hui, quand on voit une belle fille, on dit « elle est comme la fille de Job ». C'est une expression. Et on ne trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans toute la terre. Et il leur donna, leur père, un héritage au milieu de leurs frères. Au même niveau, il n'y a plus de différence. On est dans la fraternité. Et la réalité du sexe est approfondie par cette valeur de la fraternité. Et il vécut Job, après cela, 140 ans, 140 du tout, 20 ans de plus que Moïse, qui est pourtant celui qui a la plus grande longévité, semble-t-il. Enfin, pas ceux des anciens patriarches, hein, de Noé, etc. Non, parce que c'est 120 ans. Quand quelqu'un fête son anniversaire, on lui dit toujours « admer esrim » jusqu'à 120, on lui souhaite. Mais 140 ans. Vous voyez, il y a une sorte d'excès dans l'abondance, dans la surabondance de Dieu. Et il vit ses fils et les filles de ses fils, et les fils de ses fils, pardon, 4 générations. Donc ça, c'est la longévité. Et il mourut Job vieillard et rassasié de jours, comme les patriarches anciens. Est-ce que Job est guéri? Est-ce que Job est converti? Est-ce que Job est rétabli? Vous voyez, l'épilogue nous mène à une nouvelle question. Qu'est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce qu'il est vraiment cette surabondance de mon existence? Or, il est écrit, ceci c'est une addition qu'on retrouve dans certains manuscrits, or il est écrit qu'il ressuscita de nouveau avec ceux que le Seigneur ressuscitera. Bon, bien, ça c'est une addition postérieure, bien entendu, hein, au moment où on est passé à la foi précise, dans la résurrection vers le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà la fin du livre de Job. Il est restauré, il est réhabilité, il devient un partenaire de Dieu, je dirais presque à part égale. Il y a 2 livres de sagesse, on en parlait tout au début. Il y a 2 livres de sagesse qui m'apparaissent être comme une même réalité de façon distincte, différente, mais profondément unie. Et que ces 2 livres de sagesse soient mis l'un à côté de l'autre peut nous faire réfléchir, à nous lecteurs. C'est le texte de Job qui nous parle de la profondeur, du déchirement qu'est la souffrance, quelle qu'elle soit, souffrance personnelle, souffrance collective, souffrance de cataclysme naturel, souffrance venant de la perversité des hommes. Et le livre du Cantique des Cantiques, qui est aussi une recherche du visage de Dieu, mais d'une recherche amoureuse, qui apparaît comme étant dans le bonheur. Déjà, le bonheur est reçu. Et le bonheur n'est reçu que l'un de l'autre, dans l'indifférence même des sexes. Et on ne parle pas du tout dans le Cantique des Cantiques de fécondité, de filiation. C'est à l'horizon, bien sûr. Mais c'est la réalité intime de l'homme et de la femme qui se donnent l'un à l'autre dans une sorte d'eucharistie mutuelle. C'est cela qui est mis en évidence. Je vous cite dans les pages que je vous ai données parce que cette fois-ci j'ai anticipé en vous donnant le double de pages aussi. Le Cantique des Cantiques commence par la voix d'une femme. Yishakeni min shikot pihu, ki tovim dodecha miyai. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Car ses amours sont pour moi plus que le vin. Plus délicieuses que le vin. Vous voyez, c'est dans le bonheur que le désir se manifeste et toujours plus grand. C'est dans la souffrance que se creuse de plus en plus ce déchirement de l'homme qui est fait pour son Dieu et qui n'est pas Dieu, mais qui veut souvent se mettre à sa place. Et ces deux quêtes, il faut, me semble-t-il, souvent les lire l'un après l'autre, les relire l'un après l'autre. Ces deux quêtes sont conjointes et indispensables. La quête de Dieu, qu'elle soit dans la souffrance ou dans le bonheur humain, la quête de Dieu, c'est de découvrir qu'il est présent dans ce que nous avons à vivre. Et qu'il ne faut pas contrôler cette présence, qu'il faut la recevoir comme une grâce. Ce sont deux expressions de grâce. Le livre de Job, c'est la relecture que je fais dans le livre que j'ai fait comme commentaire. Le livre de Job ne serait-il pas aussi une histoire d'amour? On peut le supposer déjà à partir du prologue, amour vécu, établi, épanoui au sein d'une famille heureuse. Pas tout à fait cependant, car le père, Job, est préoccupé par le comportement de ses enfants, jusqu'à se culpabiliser et s'efforcer de réparer leurs fautes éventuelles. Et on voit bien qu'à la fin, il a à réparer les fautes de ses amis. Il craint Dieu, mais il craint aussi pour ses fils et ses filles. Sa confiance dans le Seigneur ne semble pas s'étendre aux fruits de sa chair. et le voilà soudain, par une malveillance tierce, permise par Dieu, privé de tous ses biens et de sa progéniture. De son côté, sa femme le met au défi, parlant comme une folle. L'auteur se fait alors l'écho d'une grande solitude de Job. Solitude effrayante, mais semble-t-il nécessaire. Là, en effet, commence une quête du vrai Dieu dans cette solitude. Solitude aussi qui est présente dans l'amour, solitude qui est présente dans la souffrance. Une quête du vrai Dieu. Non que le Dieu qu'il servait ne fût pas vrai, puisque le Seigneur lui-même vantait la fidélité de son serviteur Job à l'intention du Satan qui ne paraissait pas s'en apercevoir. La tradition n'a pas accepté cette solitude absolue. Elle a imaginé sa femme assumant la situation avec son mari, l'accompagnant dans sa souffrance, le soignant avec dévouement, payant de sa personne, louant ses services pour subsister avec son homme devenu grabataire. Juste intuition, sans doute. Quand Rich Dead, dans son beau petit livre « La femme de Job », essaye d'expliquer. Et donc toute la tradition juive après, et la tradition musulmane aussi, fait de la femme de Job justement cette servante de celui qui est dans la détresse absolue. Or, le narrateur du livre l'a voulu seul, Job, effroyablement seul. La visite de ses trois amis, puis celle d'Eliou, loin de lui apporter consolation et apaisement, creuse encore sa déréliction. Débute alors le chemin d'une communication impossible avec ses amis. On ne parvient pas à se mettre au même niveau. Chacun parle pour soi, reproche à l'autre d'être ce qu'il est et de ne pas se plier à sa propre conception des choses et de la vie. Les amis de Job voudraient que Job se soumette à leur idée. Ils ne rencontrent pas Job, bien qu'il lui parle. Celui-ci leur offre l'image d'une souffrance insoutenable. Faute de pouvoir l'éliminer ou l'adoucir, ils essaient de l'expliquer par une théologie de bon aloi, bien sûr, pense-t-il. Mais finalement interprétante, parce qu'elle ne rejoint pas le cœur de l'homme. La véritable interprétation, c'est la communion intime. Le malheureux en est réduit à crier. D'abord, son cri résonne dans le vide. Dieu s'y trouve toutefois, puisque Job l'interpelle, le supplie, mais il ne se fait pas reconnaître. Il ne se rend pas présent, Job, au point de paraître insensible ou absent, ou de faire poser la question de son existence. Finalement, la souffrance nous fait poser intimement la question de l'existence de Dieu. Et c'est là qu'il y a à venir. À advenir. Est-il là, Dieu ? Entend-il l'homme qui souffre ? Le voit-il ? Pourquoi rester silencieux s'il existe ? Ne serait-il qu'un produit de l'imagination humaine, des fantasmes de Job ? Dieu est en ce lieu, remarquait Jacob, s'éveillant de son songe à Bethel. Et je ne le savais pas. Dieu est là, dit Job, je le crois, mais il ne me répond pas. Dieu pourtant vit en sa propre chair. Job sent encore la marque de ses doigts qui l'ont façonné dans le ventre de sa mère. C'est Dieu, en fait, qui lui arrache son cri, et ce cri pénètre jusque dans l'intimité divine. Il est son témoin tout ensemble et son avocat auprès de Dieu. C'est ce qu'il dit lui-même. Car son opprobre, il le porte fièrement comme un diadème à la fin de sa confession. Un souffrant qui hurle, on le remarque, même si on essaie de le faire taire, si on le réduit au silence, lui aussi. Or Dieu ne répond pas. Si je savais comment l'atteindre, dit Job, pourquoi Dieu se tait-il? Est-il juste? Est-il bon? Pourquoi ce gâchis dans la vie de tant de femmes, d'hommes, d'enfants innocents? Serait-il impuissant? Limité dans son action par les mains de l'homme? Ou bien résolu à ne pas intervenir, à ne pas s'immiscer dans ses affaires, dans les affaires humaines? Mais pourquoi avoir créé le monde et l'humanité si c'est pour s'en désintéresser en bon compte? Il faut aller plus loin. Il faut découvrir avec Job que nos limites nous disent l'au-delà de la limite, mais que nous la vivons et qu'elle est en dehors de nos prises. Ainsi Job est-il amené à reconstruire entièrement sa conception des rapports entre Dieu et l'homme. Mais son cheminement est incertain. Il ne sait si c'est Dieu qu'il rencontre ou son image. Il croit, puis il doute. Il s'élance, puis il achoppe. Il se plaint à grande voix, puis se replie dans sa plainte. C'est tout ce que nous faisons. Il meurt de ne pas mourir, et pourtant il ne cesse d'espérer. Sa foi première, petit à petit, déstructurée, se restaure lentement, mais avec un matériau neuf, car tout ce qui lui avait servi auparavant lui apparaît désormais inutile et inutilisable. Sa théologie se fait moins assurée, moins que celle de ses amis en tout cas, et doucement, il ouvre sa souffrance. Il l'offre au regard de Dieu, du Dieu silencieux qui l'habite, et aux yeux des autres, autour de lui. Il s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Il songe à ceux qui peinent, qu'il a peut-être lui-même fait souffrir, en ne les considérant pas comme des frères, en ne se souciant pas assez d'eux, ses enfants, ses amis, ses serviteurs, ses familiers, les pauvres, les malheureux. Sa solitude était fermée, bien qu'il ait perçu Dieu présent, ou du moins une idée de lui. Il commence à y découvrir autrui ce long cortège de souffrances, de souffrants, de patients, des criants, des exclus et des sans-voix qui n'ont plus la force de crier. Ce sont les autres qui l'habitent. Dieu l'a mené vers eux. Et lorsqu'il parle à la fin de cette fraternité retrouvée, mais autrement retrouvée, il n'est plus possesseur de rien. Il avait de grands biens. Qu'est-ce qu'il reçoit en double ? Ce que Jésus nous dit. Celui qui aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses maisons, ses biens, etc., pour me suivre, recevra au centuple. C'est ce centuple de l'évangile qui est le double de Job. Et le double, c'est cette présence de Dieu qui l'habite. Au-delà de ses biens retrouvés, même s'il retrouve des biens par après, même s'il est réhabilité, ce ne sont plus les mêmes. C'est une réalité habitée qu'il reçoit, doublée de cette présence divine. Qui a opéré en lui cette faille? Qui a ouvert son oreille à l'écoute? Comme un amoureux qui s'éveille sous le regard de celle qui lui sourit, Job embrasse la sagesse qui se penche vers lui. Ce n'est pas Dieu encore, mais ce n'est plus une image. C'est comme un ange en avant de Dieu. La sagesse, comment la découvrir? Disait cette voix off au chapitre 28e. Où trouver le discernement? La grâce divine, doucement, descend sur lui en même temps qu'il part à sa recherche. Dieu tout autre est lié, il est là, devant lui, lié à son être. Grâce mystérieuse, comme une femme. Meilleure que tous les trésors, plus précieuse que les perles. Job craignait Dieu depuis toujours. Maintenant la crainte de Dieu l'habite. Il se prend à aimer cette présence qui s'est faite proche. Elle efface les propos de folie qu'émettait naguère son épouse et elle le lance dans une quête haletante où l'amant et l'amante tour à tour se perdent et se retrouvent, s'étreignent et se séparent. Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis j'ai trouvé celui que chérit mon âme. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Tel est le douloureux itinéraire de Job. Et voyez pourquoi je lis en connexion le Cantique des Cantiques et le livre de Job. Si nous ne voyons que le livre de Job, abstraction faite du reste, abstraction faite de l'amour, le livre de Job n'utilise qu'une fois le mot « aimer ». Tandis que le mot d'amour revient tout le temps dans le Cantique des Cantiques. Et pourtant, il s'agit profondément de la même quête. Et cette quête que nous vivons tous, c'est Dieu qui quête en nous. C'est Dieu qui nous rejoint. On a l'impression que cette présence aimante projette sur sa vie un regard plus lucide et plus juste. Son passé lui revient d'abord en mémoire et puis en réalité, en contraste saisissant avec le cruel aujourd'hui, hein, dans les chapitres 29, 30 et 31. Vient alors l'examen de conscience fait de disculpation et d'aveux mélangés, puis survient un nouveau personnage dont les propos importent peu, somme toute, mais il nous renvoie vers la création, et ça c'est important. Car cet ami prépare une nouvelle mutation qui introduira Job sous le plein feu des questions du Seigneur. Où étais-tu? Qui a fixé les lois du ciel et de la terre? Peux-tu dire, sais-tu? La sagesse elle-même s'efface devant Dieu, devant Dieu en personne. Demeurant pourtant invisible, il se donne à voir aux yeux purifiés par les larmes, larmes d'eau et de sang, du malheureux qui se sait rejoint par un amour fidèle au creux de sa détresse, au secret de sa liberté, lieu de l'alliance entre l'homme et son Dieu, mais aussi lieu où nous résistons à son amour. Voilà, me semble-t-il, ce que nous dit le livre de Job. Bien sûr, comme je l'ai dit et redit, nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais c'est l'Ancien Testament qui parle lui-même de nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance de l'Ancien Testament, c'est le retour de Dieu vers son peuple. Vous voyez que la nouvelle alliance est déjà présente dès l'Ancien Testament. Nous disons qu'elle s'accomplit en Jésus. Et il nous faudra encore voir pourquoi, petit à petit, dans l'Ancien Testament, nous sommes, mais progressivement, acheminés vers une intimité de la présence de Dieu. Et que souvent, en recevant la personne de Jésus comme une plénitude, nous n'avons pas fait tout le chemin et nous ne sommes pas encore devenus Jésus. Et qu'il est important que l'Ancien Testament, aussi bien d'ailleurs le livre de Job que le Cantique des Cantiques, qu'il soit aussi lu, relu et vécu dans notre humanité, pour découvrir jusqu'à quel point va cette intimité de Dieu. Et la figure de Jésus, nous nous y attarderons un tout petit peu la fois prochaine, la figure de Jésus a été médiatisée déjà par les figures qui nous sont présentées dans les patriarches, dans la figure de David et de Salomon, mais aussi dans celle de la sagesse amoureuse et la sagesse souffrante. Tout cela, bien sûr, est résumé dans les psaumes. Nous avons aussi un serviteur souffrant, un innocent souffrant dans les psaumes. Mais les psaumes du serviteur, le serviteur souffrant en Isaïe et Job sont vraiment des figures de Jésus. Nous verrons cela encore la fois prochaine et nous essaierons de relire le poème de Job et celui du Cantique l'un après l'autre. Mmh.